le magazine des Nations Unies.
Assassinat de deux experts des Nations Unies, accord de la Saint-Sylvestre. Ces sujets ont encore été au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. C'était le jeudi dernier. Dans cette édition, vous suivrez la représentante permanente adjointe de la France auprès de l'ONU, ainsi que le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères. La crise humanitaire est suffocante et profonde en RDC. Constat des humanitaires à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. OCHA sensibilise et mobilise. Entre-temps, les indicateurs sur la sécurité alimentaire sont au rouge. 7,7 millions des Congolais confrontés à une situation de faim aiguë selon le PAM et la FAO. Enfin, quel bilan faire de l'ONG AIRD, partenaire du ACER, 10 ans après sa création, dont 5 ans de présence en RDC? La réponse avec le directeur pays dans un décryptage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci de suivre UN Mag. La situation de la République démocratique du Congo a encore été à l'ordre du jour au Conseil de sécurité de l'ONU cette semaine. Les 15 se sont penchés sur l'examen du rapport final du groupe d'experts chargé d'enquêter sur les violations des droits de l'homme dans la crise de l'ex-Grand Kassai. Honoré Missenga Kalala nous fait le point de cette réunion.
C'est jeudi le 17 août que le Conseil de sécurité s'est à nouveau réuni pour se pencher sur la situation de la RDC. La question du double assassinat en mars dernier dans la province du Kassai de 2 experts onusiens était au centre des travaux. Un vibrant hommage a été rendu à Michael Sharp et à Zaïda Katlan, assassinés alors qu'ils enquêtaient sur les violations des droits de l'homme dans les Kassai à la suite de la crise Kamuina-Nsapu. Au-delà de l'examen de ce double assassinat, la représentante permanente de la France auprès des Nations Unies a exhorté Kinshasa à mettre en œuvre l'accord politique signé le 31 décembre 2016, seule voie d'après elle pour sortir le pays de la crise.
Cet accord, qui est le cadre agréé par toutes les parties congolaises pour la transition en vue de la tenue des élections, demeure la seule feuille de route crédible pour permettre une sortie de la crise que connaît le pays. Comme l'a rappelé ce Conseil dans sa déclaration présidentielle du 26 juillet dernier, il est urgent de mettre en œuvre l'accord en toute bonne foi et dans son intégralité. Il appartient aux autorités congolaises de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires afin que soient organisées, comme convenu dans l'accord, des élections crédibles et inclusives au plus tard en décembre 2017. Il est en particulier urgent que soit publié le calendrier électoral.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, présent également à la réunion du Conseil de sécurité, a répliqué à cette demande. Selon chez Okitundu, les élections auront bel et bien lieu en RDC et le moment exact de leur tenue sera déterminée après une rencontre tripartite gouvernement CENSA-CENI.
Ma délégation tient à rassurer votre conseil que les élections auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo, conformément au calendrier qui sera publié par la Commission électorale nationale indépendante. Il va de soi qu'en conformité avec l'accord du 31 décembre 2016, la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil national de suivi de l'accord et le gouvernement évalueront très bientôt ensemble l'évolution des préparatifs pour apprécier la période exact de la tenue de 3 élections programmées, à savoir la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales.
Les membres de famille de 2 experts de l'ONU assassinés étaient aussi présents à la réunion du Conseil de sécurité.
Des droits de l'homme à la crise alimentaire, il n'y a qu'un pas. Près de 7,7 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire, soit 30% de plus que l'année dernière. C'est en tout cas ce que révèle une analyse conjointe de la FAO-PAM, rendue publique ce mercredi à la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Alexis Bont, représentant ad intérim de la FAO, parle des besoins et surtout de la réponse que son organisation, et bien évidemment le PAM, apporte à cette crise. Ses propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali-Coco.
Comme vous le savez, en mois d'avril, on avait fait un appel qui consolidait avec OCHA où il y avait une demande d'environ 64 millions de dollars pour l'ensemble des différentes activités humanitaires. Et pour la sécurité alimentaire, c'était de l'ordre de 25 millions de dollars qui étaient prévus. Ces besoins ont beaucoup augmenté. Et rien que pour la sécurité alimentaire, on estime que ce sera de l'ordre de 60 millions de dollars qui sont nécessaires. Une autre préoccupation qu'on a pour l'instant, c'est la jeunesse. Beaucoup de jeunes ont été enrôlés dans ce cycle de violence. Et maintenant, grâce aux autorités locales, il y a un front de sécurisation des terres qui se développe et qui rend la région un peu plus stable. Raison pour laquelle on fait également un appel de fonds qui a été mentionné. Donc pour l'instant, on est à près de 50% de réponse. Maintenant, il faut voir au niveau de la sécurité alimentaire où la réponse est un peu moindre, malheureusement.
L'actualité, c'est aussi la célébration du 10e anniversaire, dont 5 ans de présence en RDC de l'ONG AIRD, African Initiative for Relief and Development, AIRD en anglais, partenaire donc du ACR. C'était les jeudis derniers à l'Académie des Beaux-Arts, ici à Kinshasa. Jean-Pierre Lalicoco a assisté à l'événement. Suivez son compte-rendu.
C'est dans cette ambiance festive que ARD a fêté ses 10 ans en présence de la représentante régionale du ACR et de nombreux invités. Après le mot de bienvenue du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, le directeur pays des ARD, Mouamadou Saliou Diallo, a retracé l'historique de cette institution et donné les objectifs.
Les objectifs peuvent se résumer en 2 points. Concevoir, gérer et mettre en œuvre des programmes d'assistance et de développement tout en se focalisant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, d'eau et assainissement. Le deuxième point, c'est de promouvoir la protection et la recherche de solutions durables pour les personnes déplacées internes, les réfugiés.
Des objectifs atteints car, selon l'orateur, ARD compte aujourd'hui 20 programmes dans 9 pays en Afrique, dont de nombreuses réalisations en RDC. Mais auparavant, la secrétaire permanente de la Commission nationale pour les réfugiés a loué l'excellente collaboration entre son institution et ARD, professeur Berthe Zinga Ilunga.
Avec ARD, nous étions irrémédiablement engagés dans une extraordinaire collaboration dans le cadre d'une des missions les plus difficiles, mais réussies. Il s'agit du rapatriement des réfugiés angolais.
La cérémonie s'est terminée par la remise symbolique des 15 poubelles à l'Académie des Beaux-Arts et la visite des salles d'exposition d'œuvres d'art.
Nous retrouverons le directeur pays de l'ARD dans notre décryptage.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous lisions en titre, l'ONG AIRD a fêté ses 10 ans d'existence, dont 5 ans de présence en RDC. Messieurs Mouamadou Saliou Diallo est le directeur pays de cette ONG. Il nous parle de cette institution, ses objectifs et programmes en Afrique, et surtout ses réalisations en République démocratique du Congo. Messieurs Diallo s'entretient avec Jean-Pierre Lali Coco.
Monsieur Mouamadou Saliou Diallo, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur pays ARD en République démocratique du Congo. Nous venons d'assister aux festivités marquant le 10e anniversaire de votre organisation. 10 ans pour une organisation comme ARD, ce n'est pas peu, et notamment les 5 ans passés en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan sur vos réalisations en République démocratique du Congo, très brièvement?
Ok, bon, je vous remercie. Pour répondre à votre question, AIRD, c'est une organisation non gouvernementale qui a son siège à Kampala et nous sommes présents dans beaucoup de pays, notamment la RDC où on a une existence depuis 2012. Donc on travaille en étroite collaboration avec le gouvernement congolais à travers la Commission nationale de réfugiés. On a aussi beaucoup de partenaires, on évolue pratiquement dans l'humanitaire avec très peu de développement. Donc nous nous occupons des réfugiés, des déplacés internes et nos activités sont orientées vers la logistique. Donc nous gérons les garages pour le ACR et ses partenaires. Donc on est dans beaucoup de provinces, on couvre pratiquement la RDC partout où il y a une présence du ACR. On est aussi dans la construction d'infrastructures. Nous construisons les camps de réfugiés, des postes de santé, des écoles. Nous faisons aussi des postes de police. On réalise également des marchés. Donc le grand défi que nous avons par rapport à tout ça, c'est particulièrement les difficultés des fois d'accès à certaines zones où il y a des problèmes de sécurité. Donc ça limite un peu nos activités. Mais nous avons le soutien des autorités congolaises qui nous assistent, qui nous permettent d'évoluer. Nous avons aussi d'autres partenaires qui travaillent avec nous. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier la CNR, qui est le partenaire gouvernemental, et tous les autres partenaires, notamment le HR, qui est un partenaire de taille pour nous, et les autres agences des Nations Unies, notamment le PAM, le Poulpon à travers OCHA, le PNUD. Nous travaillons également avec la MONUSCO, ça c'est au Katanga, où nous avons deux projets pour la réhabilitation d'écoles et de routes dans le cadre de pour renforcer la paix dans la zone entre les différentes communautés qui sont en conflit.
Il y a eu des intervenants ici et tous sont revenus sur les succès que vous récoltez ici dans le cadre de vos réalisations. Et en quoi consiste justement ce succès, selon vous?
Bon, le succès, c'est que, bon, on a commencé en RSC, comme j'ai dit, en 2012. On avait juste un petit projet. Et aujourd'hui, on a quand même un programme qui est constitué d'une dizaine de projets. Donc, compte tenu de notre expansion à l'intérieur de la RDC, c'est qu'il faut savoir que AIRD a un système. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de systèmes qui nous permettent de gérer nos activités. Sur le plan de la logistique, il y a le système qu'on appelle PMS, qui est une base de données qui permet de faire le suivi dans le domaine de la gestion de la flotte automobile, de la gestion des garages. Donc, nous avons comme ça sept systèmes qui nous permettent, qu'on a mis en place, qui nous facilitent dans nos activités quotidiennes. Nous travaillons aussi en étroite collaboration. Il y a un bon esprit d'équipe entre les collègues. Et la plupart de nos agents aussi, c'est un personnel qui a beaucoup d'expérience, qui a travaillé dans beaucoup d'autres organisations, qui se retrouvent chez nous. Donc, le fait que de leur expérience, de la connaissance du terrain, donc, ça nous permet d'avoir les résultats que nous avons actuellement.
Ok, vous avez parlé de défis, notamment l'état de l'après des routes. Est-ce que vous avez d'autres défis à relever dans les prochaines années et, ou bien vous avez aussi des réalisations en vue?
Oui, bien sûr. Actuellement, on est en train d'avancer dans le programme que nous avons avec nos différents partenaires pour l'année 2017. Voilà, donc... Les grands défis que nous avons, c'est un défi aussi qui concerne l'ensemble des partenaires qui évoluent en RDC notamment. Comme vous le savez, les ressources s'aménisent. Donc là, les ressources, on ne les a pas comme les années passées, ça ne fait que diminuer. Donc ce qui fait que on va vraiment essayer de donner des priorités selon nos interventions. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire parce qu'il faut qu'il y ait une innovation, pas cette situation de crise où il n'y a pas effectivement de moyens et où il y a de plus en plus de besoins. Parce que quand vous regardez la situation actuelle, les déplacés internes, on dit que c'est dans l'ordre de 3 500 000 personnes. Je ne veux pas tellement faire des analyses sur le nombre de personnes déplacées. Mais vous vous rendez compte aussi les différentes crises qu'il y a de gauche à droite. Donc, cela veut dire qu'il y a un besoin réel. Donc, mais malheureusement, les fonds ne suivent pas. Je voudrais aussi profiter de votre antenne, peut-être lancer un appel pour que vraiment les donateurs puissent aussi être attentifs à ce qui se passe en RDC. La RDC a reçu vraiment depuis longtemps de refuser des pays autour de la RDC, des pays frontaliers. Donc il faudrait vraiment qu'on prête attention à ce pays qui a beaucoup investi pour recevoir des refusés. Et la plupart de ces gens qui viennent, ils sont logés aussi dans les communautés hautes. Donc comme disait le coordinateur humanitaire au cours d'une réunion qu'on a eue en début de semaine, c'est effectivement les plus grands nombres de personnes qui interviennent dans l'assistance de ces refusés. C'est plutôt la population congolaise elle-même qui partage tout a priori avant l'intervention de la communauté humanitaire.
Une dernière question, vous avez parlé de la bonne collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés. Un mot sur le partenariat avec les ACR et d'autres agences des Nations Unies?
Oui, on a de bons partenariats. Une bonne qualité de partenariat avec le HR, d'abord le gouvernement congolais, hein, qui nous a accueillis, et puis voilà, qui nous crée des facilités pour pouvoir vraiment intervenir dans nos projets et programmes. Le HR qui nous fait aussi confiance, qui est notre partenaire depuis 2012, date de démarrage de nos activités en RDC, en tant qu'IRT. Voilà, il y en a d'autres encore. Il y a, comme j'ai dit, le PNUD, il y a OCHA, il y a le Programme alimentaire mondial, il y a la MONUSCO notamment, avec les deux projets qu'on a à Calémi, notamment pour la réhabilitation de routes et la réhabilitation aussi des écoles. Donc, la qualité du partenariat est très bien. Donc, j'apprécie et je les remercie à travers votre micro. Et on va continuer à lutter pour vraiment maintenir cette confiance. Et on est disposé à garder ce partenariat aussi longtemps qu'il y a des besoins dans le domaine où nous intervenons.
Monsieur Mamadou Salio Diallo, Radio Kapi, vous remercie et bon anniversaire.
Ouvrons cette page par Nyunzu dans la province du Tanganyika où le bureau de la MONUSCO-KALEMI a lancé le mercredi 16 août 2017 un programme de réduction des violences communautaires entre Twa et Bantou. Ce programme, d'une durée d'une année, comprend 4 projets. Le premier concerne l'installation des barzas pour prévenir, résoudre mais également gérer les conflits locaux dans tout le territoire. Les autres projets portent respectivement sur la réhabilitation de la route rurale sur l'axe Nyunzu-Kongolo long de 25 km mais également de deux écoles à Nyunzu et Kabalo, ainsi que sur l'équipement des radios communautaires. Dans le même registre, cette fois-ci à Beni, au Nord Kivu, la section DDRRR, désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation des groupes armés de la MONUSCO a financé le projet de construction d'un marché du quartier Kalinda. Ce projet, d'un coût de plus de 48 000 dollars américains, vise aussi à diminuer la violence communautaire dans cette contrée. Il a également permis d'offrir à des ex-combattants, aux femmes et aux jeunes, un emploi temporaire. Enfin, volet humanitaire, Ocha annonce avoir atteint 40% des financements attendus pour les Kasaï. Les donateurs répondent de plus en plus à l'appel lancé afin de juguler la crise humanitaire en cours dans cette région de la RDC. Se félicite en tout cas Ocha. Les donations viennent à cet effet, selon la source, des gouvernements suisses et néerlandais pour respectivement près de 1,3 million et 3 millions d'euros.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La situation humanitaire est suffocante et critique en RDC. C'est en tout cas le constat de la communauté humanitaire à l'occasion de la célébration le 19 août dernier de la Journée mondiale de l'action humanitaire. Les conflits qui affectent le Kasaï et tout l'est du pays sont donc à la base des déplacements des populations et de la crise humanitaire actuelle. Alors que faire devant cette situation de crise profonde? Mag Yuen reçoit pour vous Yvon Idoumou. Il est chargé de communication et plaidoyer à Ocha. Il est interrogé par Jean-Pierre Elali, Ikoko.
Yvon Idoumou, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous êtes chargé des communications à Ocha. Le 19 août de chaque année, c'est la journée mondiale de l'action humanitaire. Quelle est la portée de cette journée, notamment en République démocratique du Congo?
Cette année, cette journée revêt une importance assez particulière parce qu'en fait, le thème de cette année, c'est un thème qui s'applique très bien à la RDC. Et le thème de cette année, c'est « pas une cible ». En anglais, on dit « not a target ». En français, c'est « pas une cible ». Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là qu'aujourd'hui, à travers les crises que nous vivons dans les diverses provinces du pays, on se rend compte que beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'écoles, beaucoup de maisons, beaucoup de champs sont parfois ciblés, que ce soit de façon délibérée ou pas. Mais en tout cas, beaucoup de ces infrastructures socio-économiques qui ne sont pas, entre guillemets, parties au conflit, sont victimes des conflits. Donc on dit aujourd'hui, pas une cible. Nos écoles ne doivent pas être une cible. Nos enfants dans le Kasaï, les femmes dans le Kasaï, les communautés qui vivent à travers le pays ne doivent pas payer les frais des violences armées entre les protagonistes. Et aujourd'hui, la crise congolaise est tellement aiguë, tellement forte, tellement suffocante pour des milliers de personnes qu'on a envie de dire stop et de ne plus prendre les civils pour des cibles dans les conflits.
Malheureusement, c'est ce qui s'est fait.
Le constat est là, le constat est que beaucoup de civils, c'est de ces paisibles congolais qui vivent et qui, du jour au lendemain, se retrouvent déplacés, qui se retrouvent dans le feu de l'action des protagonistes. Le message cette année est de dire non, nous ne voulons plus que ces personnes-là payent les frais, j'allais dire, de vos violences, si on parle des violences entre les protagonistes.
Oui, pendant que ce pays est confronté à une crise humanitaire sans précédent, notamment dans les Kasaï, quel est l'état du lieu de l'action humanitaire aujourd'hui dans notre pays?
La situation humanitaire demeure inquiétante et malheureusement, on le dit depuis des années, la RDC aujourd'hui est une crise aiguë qui touche beaucoup trop de gens, beaucoup trop de familles, beaucoup trop de provinces. Aujourd'hui, on estime que la moitié des provinces de la RDC font face à des besoins humanitaires, que ce soit dans les provinces de l'est du pays ou dans le Kasaï. Vous avez la malnutrition, vous avez les maladies, vous avez les déplacements forcés, vous avez les parents qui ont du mal à scolariser leurs enfants, vous avez les champs qui sont inaccessibles. Ça fait trop de choses pour le pays et aujourd'hui c'est une situation qu'on essaye, tant bien que mal, d'y répondre. Heureusement qu'on a des travailleurs humanitaires, que ce soit du côté des Nations Unies ou du côté des ONG, qui s'y mettent à fond dans la tâche, évidemment. Aujourd'hui, pour le Kasaï, on constate que beaucoup plus d'opérations, beaucoup plus d'acteurs humanitaires sont en train de se déployer dans le Kasaï, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le Kasaï, on veut dire, est peut-être la partie la plus visible d'une crise qui dure depuis trop longtemps.
En avril dernier, Otcher a fait un appel à l'aide humanitaire de 64,5 millions de dollars. Quelques mois après, est-ce que vous avez du répondant du côté des bailleurs de fonds et des donateurs?
Oui, ces dernières semaines, on doit dire qu'il y a du répondant, il y a du répondant très positif. Nous voyons de nombreux donateurs faire des annonces de financement. Je ne vais pas les citer tous ici parce qu'il y a quand même un bon nombre de donateurs et nous avons bon espoir que ces financements vont nous permettre de façon substantive augmenter nos opérations sur le terrain.
Et en termes chiffrés, vous avez parlé tout d'abord des 11% de ce montant et puis on a parlé des 40%, et donc il y a évolution et puis sur le terrain, les actions sont concrètes.
Oui, donc comme je disais, effectivement, il y a de l'argent que nous avons déjà reçu il y a de cela quelques semaines, qui ont déjà été, j'allais dire, dépensés pour les activités. Mais aujourd'hui, nous fondons beaucoup d'espoir sur les récentes annonces qui ont été faites. Et c'est peut-être le moment aussi de dire à ces donateurs qui ont fait ces annonces, nous attendons le décaissement effectif de ces montants afin de pouvoir mettre en œuvre toute une série d'activités qui sont nécessaires pour les personnes. Donc oui, je pense que dans les semaines à venir, on verra une augmentation des opérations parce qu'on a reçu beaucoup plus d'argent que nous avons en ce moment.
Si on voit bien au niveau du Kasaï, et tout comme au Tanganyika et dans le reste du pays, ce sont beaucoup plus les enfants et les femmes qui sont victimes des conflits qui arrivent. Est-ce que aujourd'hui, Otcha, avec ses partenaires, ont quel défi à relever? Quel est le plus grand défi sur le plan humanitaire aujourd'hui?
Pour le Kasaï, le défi est de pouvoir mobiliser les ressources et apporter de l'aide. C'est essentiellement le défi. Et en parlant d'apporter de l'aide, il y a aussi une question d'accès. Donc nous avons besoin de pouvoir nous mouvoir, de pouvoir bouger aussi librement, aussi facilement que nous voulons, afin que les personnes qui soient dans les coins reculés, dans les villages reculés, puissent recevoir l'aide dont elles ont besoin. Le climat sécuritaire dans le Kasaï est toujours inquiétant. Il y a certes des zones de pistes qui nous permettent de bouger, mais dans l'ensemble, c'est une zone sécuritaire qui est assez tendue. Évidemment, on ne reste pas là les bras croisés à attendre que tout aille bien pour qu'on fasse ce travail, mais on a besoin d'un climat beaucoup plus... Non seulement nous, mais aussi les personnes civiles, le Kasaï a besoin d'un climat sécuritaire beaucoup plus apaisé afin que nous puissions déployer et nos camions et nos équipes et nos vaccinateurs et tous ceux qui sont censés apporter de l'aide. Voilà, c'est ça le grand défi, c'est de pouvoir accroître de façon substantive nos opérations pour toucher tous ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, on parle de des milliers de personnes qui sont déplacées, qui souffrent de faim, tous ces enfants qui ne sont pas à l'école. Il faut que dans les semaines à venir, nous puissions les atteindre avec les biens que nous avons.
Yvonne, une question d'actualité pour terminer. Mes crédits, la FAO et le PAM ont présenté un rapport. Et dans ces rapports, on note une affaire de 7,7 millions de personnes qui sont confrontées à une crise alimentaire. Est-ce que dans le domaine purement de l'aide humanitaire, quelle place occupe effectivement l'aide alimentaire et que font les ONG qui s'occupent de ce secteur justement sur le terrain?
Effectivement, l'aide alimentaire, la nourriture représente un grand volet dans les opérations que nous menons. Je pense que la nutrition et la santé sont peut-être les deux domaines qui mobilisent beaucoup d'efforts, beaucoup d'opérations. Le PAM est en tête de pont de cette opération. C'est un grand paradoxe parce que nous sommes quand même en RDC, on parle d'un pays qui a plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec des cours d'eau qui traversent le pays du nord au sud, d'est en ouest. On a des terres vertes, arables, on n'avait qu'à jeter des grains et puis voilà, les choses poussent. Mais en même temps, on a une population qui vit une situation de malnutrition aiguë. C'est un paradoxe. Alors, il est important de dire qu'en fait, cette situation de malnutrition est due au fait que ce n'est pas qu'aujourd'hui la RDC est en train de devenir un désert, il n'y a plus rien à manger. Non, un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les populations n'ont plus accès à leurs champs. Dans l'est du pays, nous savons que la plupart des communautés et des familles sont des familles qui vivent de l'agriculture, mais elles doivent avoir accès à leurs champs. Avec l'insécurité, les personnes sont déplacées. Elles se retrouvent donc non seulement elles ont perdu accès à leurs champs, donc en fait leurs moyens de revenus, mais aussi elles-mêmes, elles ne peuvent plus se nourrir puisque aujourd'hui, elles se retrouvent dans des brousses, dans des familles d'accueil, dans des zones où il n'y a pas de terre, il n'y a rien à cultiver. Au finish, on revient toujours à cette question d'insécurité. Il faut, comme M. O'Brien, c'est le numéro 1 de OCHA qui était ici en visite il y a quelques semaines. Nous, humanitaires, on peut faire tout ce qu'on peut, mais au finish, la vraie solution, la meilleure solution pour la crise humanitaire, c'est un retour de la paix en RDC. C'est la chose qui va faire qu'on ne parle plus de malnutrition, qu'on ne parle plus d'enfants déplacés. L'aide humanitaire, c'est un peu comme du sparadrap. On soigne, on apporte du sparadrap, mais ce n'est pas ça qui va faire développer ou résoudre la crise humanitaire. La crise humanitaire doit être résolvée à travers une culture de paix, de sécurité, où on n'a plus affaire à des groupes et des bandits armés qui ne font que menacer les populations.
Yvan Edoumont, je vous remercie.
Merci Jean-Pierre.
Le nord de la RDC est toujours soumis à un afflux continu de demandeurs d'asile centrafricains, avec notamment l'arrivée la semaine dernière de plus de 10 000 personnes à Yakoma, dans le nord Ubangi. Dans un communiqué publié ce mardi 15 août, à cet effet, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACR, se dit préoccupé. Honoré Missenga Kalala.
Comme les autres, les 10 000 nouveaux arrivants ont fui l'insécurité dans leur pays, précisément à Bema, une ville centrafricaine située en face de Yakoma. Et en dehors de Yakoma, l'afflux continue dans d'autres zones frontalières du nord de la RDC, inaccessibles pour la plupart et où très peu d'acteurs humanitaires sont présents. Ce qui justifie entre autres la préoccupation du ACR. Cette nouvelle vague de demandeurs d'asile s'ajoute à 65 000 autres arrivés mi-mai 2017 et aux 103 000 arrivés depuis 2013, l'année du début de la crise en République centrafricaine. Nombre de ces personnes sont hébergées par des familles congolaises. Du 5 au 8 dernier, le ACR a distribué des articles ménagers essentiels à près de 10 000 de ces personnes à Yakoma, Limassa et Satema. À ce jour, précise encore le communiqué, le ACR a reçu 7% des 55,3 millions de dollars américains demandés pour assister les réfugiés et demandeurs d'asile centrafricains en RDC.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et la question de ce dimanche concerne les Sud-Soudanais basés actuellement à Munigi. Nous sommes là au Nord Kivu. Suivez.
Bon, la question aussi peut-être à la mission. En est-il de la situation de réfugiés sud-soudanais qui sont à Munigi, près de Goma, qui a suscité une manifestation de la société civile de la place? Qu'est-ce qui se passe?
Si vous parlez des ex-combattants soudanais qui sont regroupés à Munigi, effectivement, ils sont arrivés plus ou moins il y a un an et la MONUSCO les a pris en charge sur une base humanitaire. Suite à un accord entre le gouvernement congolais et les Nations Unies, ces réfugiés ont la possibilité de demander des visas pour des pays tiers, en fait, demander à être accueillis par des pays tiers. Donc certains ont reçu ces visas, certains ont pu partir, d'autres pas encore parce que le processus est long. Donc je pense que c'est à ça que vous faites référence, mais il y a eu un mouvement, on va dire, d'impatience. Tout est rentré dans l'ordre et évidemment, on espère que les cas qui sont en cours d'étude pourront aboutir pour le meilleur.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Bonjour, je m'appelle Nanambala, je suis à Radio Kapi depuis près de 14 ans. Actuellement, j'évolue au sein de la rédaction sportive de votre radio. Je suis reporter sportive et éditrice web également, puisque nous mettons également en ligne nos informations sportives que nous diffusons sur les ondes ou d'autres que nous diffusons d'abord sur le web avant de vous le transmettre par la voie des ondes. Donc nous commençons par faire le monitoring avec tous les médias congolais et étrangers. Et après, nous faisons la récolte des informations au moyen de téléphone et également sur terrain par des dictaphones. Et cela nous permet juste après de voir l'information la plus pertinente pour mettre sur le site internet de votre radio dans la rubrique sport. Avant de venir à Radio Kapi, j'ai d'abord été à la radio-télévision Kin Malebo et après suis allée à la radio Réveil FM et après c'était l'agence presse associée et puis un bref passage au sein de l'agence France Presse. Et mon temps libre actuellement, c'est plus construit par ma petite fille qui a à peine une année, donc il m'est vraiment difficile de me déplacer puisque je l'ai tout le temps avec moi. En ce qui concerne la musique, je suis une chrétienne pratiquante et j'écoute souvent la musique chrétienne. Donc les autres, je les écoute, mais pas vraiment ma préférence. Et le sport, je pratique souvent la marche. Je peux faire 10 km par jour sans me fatiguer. Quant à la nourriture, je mange tout ce qui est présent devant moi. Si je trouve que c'est bon à manger, je mange. Si je ne le trouve pas, je ne mange pas non plus. C'est pas vraiment compliqué, hein, si vous m'invitez chez vous, ne vous en faites pas. Je sais aussi de goûter au mets d'autres ethnies pour savoir un peu comment ça se passe. Et en ce qui concerne le projet d'avenir après Radio Capi et la MONUSCO, je ne peux pas les dévoiler ici devant vous, fidèles auditeurs. C'est vrai que je les garde pour moi, parce que c'est un secret, c'est un projet. Donc si je les dis ici, ce ne sera plus un secret pour moi. Donc par là, je peux vous dire un peu de patience. Merci à vous de nous avoir suivis. Maintenant, dans le bien de Volende Kiviso, accent Kikwayeri. Ça, c'est qui dit là.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche, de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Le 22 août, c'est la journée de l'eau, une denrée très importante pour tout être humain. Et le 23 août, c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. C'est déjà la fin du Mag UN. On vous dit merci de nous avoir suivis à la coordination, reportage et réalisation. Jean-Pierre et Lali Coco, reportage également Noémie Missinga. Ce magazine a été supervisé par Martin Sebujangwe, mis en ombre par William Lungamba. Et moi, je suis Tina Salama. C'est un plaisir de vous le présenter. On se dit à très bientôt sur Radio Capi. Ciao.